Bonjour tout le monde. Laissez-moi profiter et commencer tout de suite en souhaitant bonne fête papa. Est-ce qu'il y a beaucoup de papas ici? Levez la main à tous les papas, là. On leur donne une bonne main d'appréciation, là. Oui, effectivement, comme disait ce matin, hein, les chants, les enfants, merci pour tout ce que vous faites, comme Lise disait. C'est un fait. Eh bien, en fin de semaine passée, on avait la visite, j'avais Julie et Joël, comme vous savez, Joël ici a porté le message dimanche dernier de Trois-Rivières, et puis ils étaient en visite chez nous pour la fin de semaine, et c'était le congrès provincial, donc ils en ont profité, vous venez faire un tour à la maison. C'était les deux petits gars, vous savez, ceux qui ont été adoptés en Ukraine, les deux petits gars et deux filles de Julie et Joël aiment beaucoup la pêche. Donc, on a décidé d'aller faire de la pêche et déjà, c'était préparé d'avance. Joël avait acheté des lignes à pêche et tout ça. Ils avaient hâte. Les enfants avaient vraiment hâte de venir. On était pour prendre le bateau pour aller faire un petit tour sur la rivière puis aller faire un peu de pêche. Donc, c'est ce qu'on a fait. Tout le monde était prêt. Le vendredi soir, on a tout préparé, les lignes et tout ça. J'ai nettoyé mon bateau la semaine dernière. Tout était prêt, là. Donc, on s'en va, on met le bateau à l'eau et puis on le met. Joël m'a aidé à l'installer sur le bord du quai, à côté là, de la brosse, au bout de la brosse. Je pense que c'est Jacques Cartier qui appelle ça. Et puis, on était juste sur l'eau, sur le bord. Alors, tous les enfants étaient prêts et tout ça. Et puis, il y a un principe, en tout cas, s'il y a une chose que j'ai appris avec les aînés, avec les enfants, c'est qu'il faut pas que tu fasses attendre les enfants trop longtemps. Ça s'impatiente. Au début, c'est le fun, c'est plaisant. Là, les enfants regardent l'eau, le bateau, tout ça, regardent. Mais il faut pas que ça soit trop long. Donc, c'est pour ça que j'avais tout préparé pour que ça aille assez vite. Là, on s'installe, et puis le bateau est là, et puis là, tout le monde a hâte. Noah était là, Liam, et tout ça, ils avaient hâte d'aller faire la pêche, lancer la ligne à l'eau. Et puis là, je viens pour démarrer le bateau. Il allait bien chez nous, on l'avait essayé, tout était correct. Là, on est sur l'eau, c'est le temps de partir. Deux enfants, ils disent, c'est correct, c'est drôle, c'est plus sérieux, parce que là, c'est une fois, là. Je voyais le visage changer à mesure que je tournais, puis ça marchait pas, là. Et là, ils sont tous là avec leur ligne, puis au début, c'est comme ça, puis à la fin, c'est comme ça. On va-tu y aller faire de la pêche? Grand-papa, ça va-tu marcher? Oui. Il y a rien à faire. Alors là, j'ai dit, ah non, mais ça n'a pas de bon sens, écoute pas ce matin. Et là, j'ai fait une prière, Seigneur, c'est pas matin. Fait que là, je sors du bateau, je vais aller voir, j'ai dit, tiens, je voyais un homme. Là, j'ai appelé Daniel Clément. Daniel, il était pas là, j'appelle un autre, personne était là. J'ai dit, c'est quoi l'affaire? J'ai dit, tout allait bien cette semaine. Et puis là, finalement, il y avait quelqu'un qui arrivait dans un bateau, sur le bord. Et j'ai dit, je vais prendre une chance, je m'en vais le voir, puis j'ai dit, bonjour, comment ça va? Il dit, how are you? Puis il parlait anglophone, en anglais, je commence à jaser, je connaissez-vous la mécanique un peu? Il dit, yeah, sure, je dis, oh, oui, pas de problème. Il dit, je vais aller le voir, t'as des problèmes? Merci Seigneur. Fait que je viens tant, alors il embarque dans le bateau, il s'en va en arrière, puis là, enlève le capot, tout ça, puis joue là-dedans, puis tout ça. Fait que ça a pris à peu près 10 minutes à jouer avec le moteur, puis il dit, try it! Fait que là, je l'essaye. Broum, ça part, mon ami. Oh, yes! Là, ça part, les enfants, ça saute de joie, ils étaient tellement contents. Ah, oh, thank you, un bon samaritain, là. J'ai dit, hey, merci beaucoup, tout ça. Le gars était content. Moi aussi, j'étais content. Tout le monde était content. Les enfants étaient contents. Donc, finalement, on part en bateau, on s'en va. Donc, moi, j'ai un radar. Un petit radar, un petit sonore, là. Et puis, ça montre qu'il y a des poissons en dessous du bateau. Fait qu'à un moment donné, je regarde, je dis, hey, c'est plein de poissons ici, à 5 pieds en dessous du bateau. Plein! Regardez ça! Les filles s'en venaient. Oui, regarde, c'est plein de bateaux, papa. Là, ils appellent Joël. OK, on arrête ici, on met l'ancre dans l'eau. Puis là, c'est, écoute, c'était plein. C'est presque, tu pouvais quasiment mettre ton filet, 5 pieds. J'exagère. L'histoire de pêcheur, je sais. Mais en tout cas. Là, c'est, en tout cas, c'était plein de poissons en dessous. Fait que là, tout le monde lance la ligne. Tout le monde, ah! Là, la satisfaction de grand-papa. Tout le monde est installé et fait de la pêche. J'avais même amené ma ligne à pêche. Commencé à faire de la tire. Tiens, j'y vais. Puis là, une de mes petites filles voulait essayer ma ligne à pêche. Viens, oui, pas de problème. Hey, gros événement. Les enfants avaient même acheté des verres. Des vrais verres. Quelle expérience, hey, des enfants mettre les verres dans la mission. En tout cas, c'est pas la meilleure expérience que j'ai trouvée, mais en tout cas, c'est correct, là. Joël sort son poignard, et son, tu sais, comme, c'est un pro, là, tu sais, coupe les verres, installe ça chez les amis. Bon, ah, d'accord, je vais arrêter les détails, vous en allez manger tantôt. Là, on est là, puis lance la ligne, tout est beau. Tout est beau. Ah, super. Là, d'ailleurs, même, je vais vous montrer quelle photo, tiens, hein? Écoute, je vais faire mon oncle ce matin, ou mon grand-papa, en tout cas. Regarde ça, hein? Là, tout le monde t'installe. Oui, hein? C'est-tu merveilleux? Alors, écoute, grand-papa, ne peut pas manquer l'occasion de montrer des photos des petits-enfants, voyons, c'est sûr. Hein, regarde ça. Joël fait de la ligne à pêche et tout ça. Les deux filles qui font de la ligne, tu sais, font de la pêche. Alors, à droite, c'est Anna. D'accord? Elle a 8 ans. Elle est une fille réfléchie. Elle s'installe sur le bord ici, là, puis elle lance la ligne, puis moi, je m'installe juste à côté. Puis je les regarde, puis tu sais, j'explique un peu comment ça fonctionne. Puis là, elle regarde, elle tire la ligne, et tout d'un coup, comme ça, dans ses pensées, elle me dit, « Tu sais, grand-papa, si le moteur n'était pas parti, on ferait pas de la pêche. » Oui, c'est vrai, chérie, c'est vrai. Là, elle arrête, elle continue de réfléchir, elle tire un peu la ligne, et elle dit, « Avec Dieu, il y a toujours une solution. » Hey, c'est-tu bon, ça? Avec Dieu, il y a toujours une solution. Quand je suis revenu à la maison, je suis allé voir Julie et sa mère, et je suis allé la voir, j'ai dit, « Julie, je trouve ça vraiment intéressant parce que déjà, dans la pensée, j'ai raconté un peu l'anecdote d'Anna, et puis elle m'a conté une autre anecdote qui venait de se produire justement 2 semaines avant, comment sa petite fille de 8 ans l'a même encouragée, sa mère, et l'invitant à avoir confiance en Dieu, tout ça, il vivait un défi. Et c'est vraiment bon. J'ai dit, sais-tu, je lui dis, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà à l'âge de 8 ans, Dieu fait partie de son équation. Déjà à l'âge de 8 ans, sa vision du monde est imprégnée par la présence de Dieu. Et ça commence là quand ils sont jeunes. Comme parents, c'est l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants. La connaissance de Dieu et de faire de nos enfants des disciples. Les préparer et qu'ils deviennent des disciples pour qu'à leur tour, plus tard, puissent faire des disciples avec la prochaine génération. Être parent, c'est un appel très important. Plus important même que n'importe quelle vocation qu'on peut avoir. C'est un investissement perpétuel que l'on a envers nos enfants. Nos enfants sont un don qu'on offre au monde et qui va rester même après nous. Et même quand on va être parti, on pourra avoir un impact jusque dans l'éternité. Pensez-y, là, à travers les prochaines générations. C'est l'appel qu'on a reçu comme parents et comme papa, plus particulièrement ce matin, comme on veut voir ça. Alors, comment on fait ça? Comment avoir un impact sur nos enfants qui va durer même jusqu'à la prochaine génération? Eh bien, c'est ce que le psaume 78 nous donne comme message. Et on va aller voir. Ça nous donne clairement comment on peut y arriver. Moi, je vous invite, si vous avez votre Bible avec vous, le psaume 78. Maintenant, c'est un long psaume. Il y a 72 versets dans le psaume. On ne lira pas, certainement pas le psaume au complet. D'ailleurs, c'est le deuxième psaume le plus long. Après le psaume 119, alors 72 versets, mais on va se concentrer surtout sur les 8 premiers versets, si vous voulez bien. Alors, psaume 78, versets 1 à 8, et juste avant de faire la lecture, qu'est-ce que vous diriez si on se courbait un moment et on demandait à Dieu sa bénédiction? Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Comme on l'a chanté tantôt, on parle que tu es ce Père parfait. Tu es un Père qui... N'oublie pas ses enfants, qui prend soin de ses enfants, les nourrit, s'en occupe. Et Seigneur, tu es le Père parfait, tu es notre modèle. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour de prendre si bien soin de chacun d'entre nous. On te prie ce matin que par ton esprit, tu puisses nous aider, l'épopée et chaque membre de l'Assemblée, que tu puisses nous aider vraiment à être des modèles imparfaits évidemment, mais nous voulons rechercher l'excellence, nous voulons nous améliorer de plus en plus Et pour les papas en particulier, ce matin, nous te demandons que ton esprit puisse nous aider à nous rendre meilleurs, à nous rendre de meilleurs papas encore, Seigneur. C'est le souhait, c'est notre prière, et on te le demande parce que c'est, il y va même de ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, psaume 78, on va lire les 8 premiers versets. C'est un cantique, alors c'est un chant. Tantôt, je voyais un cantique composé par Alexandre. Et lui, c'est un cantique. Il s'appelle pas Alex, il s'appelle Asaf. C'est un nom un petit peu différent, là, mais voici ce qu'il dit. « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. » Maintenant, ce psaume ne suit pas le modèle habituel des psaumes. Habituellement, les psaumes vont... certains psaumes, la plupart d'ailleurs, vont s'adresser directement à Dieu. Ce sera des louanges et tout ça. Il y a des psaumes comme ça. Des psaumes d'imprécation qui ouvrent le cœur à Dieu, répand notre douleur à Dieu. D'autres psaumes, c'est des louanges. Mais ce psaume, qui est un chant, est en fait un message, est une exhortation. Et d'ailleurs, il l'a dit d'emblée, déjà dans le premier verset, premier deux versets. C'est un message qu'il nous envoie. Asaph nous donne un message. Et il donne les messages, le message aux parents et à la génération qui est là. Maintenant, une des choses qui arrive lorsque ça arrive, la fête des mères, la fête des pères, certaines personnes qui n'ont peut-être pas encore d'enfants, qui n'en ont pas, ou qui sont célibataires, vont dire « Ah, le message n'est pas pour moi ». Mais faites attention, parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes joint à une église, lorsque vous êtes venu à Jésus-Christ, vous faites partie maintenant de la famille de Dieu. Il y a maintenant deux familles. Vous avez deux familles. Vous avez la famille biologique, évidemment, où vous êtes né, vous avez été élevé, tout ça, mais il y a la famille spirituelle. Et nous avons tous un rôle à jouer dans la vie des enfants dans l'Église. Et pas juste les enfants, les uns envers les autres. Nous faisons partie d'une belle grande famille qui est la famille, qui est l'Église de Jésus-Christ. Jésus l'appelle un corps, c'est une famille. Et maintenant, vous êtes membre de cette famille si vous êtes venu à Jésus-Christ. Cette famille, c'est une famille spirituelle. Nous sommes membres les uns les autres de cette famille spirituelle. D'ailleurs, il y a des versets dans les Écritures qui nous rappellent de se soigner les uns les autres, de prendre soin les uns les autres. Par exemple, je pense à Romains 12 qui dit ceci, « Nous formons un seul corps en Jésus-Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Un autre passage dans 1 Corinthiens 12 répète la même chose essentiellement. Ça dit que les membres aient soin les uns des autres. Dans Galates 6, 2 aussi, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ qui était l'amour de s'aimer les uns les autres, etc. Portez les fardeaux les uns les autres. Donc, nous avons tous à investir dans la vie des gens de l'Assemblée. D'ailleurs, l'invitation qui nous a été lancée ce matin par Lise est un bel exemple. Lise Alonde qui nous disait qu'elle avait besoin d'aide, et on voit tout ce que les moniteurs et monitrices font dans les classes pour enseigner, inculquer la parole de Dieu aux enfants ici dans l'Église. Et vous êtes invité à vous joindre à l'équipe dimanche prochain pour aider l'été. Et c'est pas une garderie. Il y a un investissement qui se fait dans la vie des enfants. Ça, c'est une des choses qui étonne les gens de comprendre et d'apprendre qu'on enseigne la parole de Dieu à des jeunes. Ça, c'est étonnant pour eux. Je faisais l'autre jour, je rapportais les professeurs qui sont venus ici de ce nouveau cours d'éthique religieuse. Et de culture religieuse. Et puis ça, c'est une des choses qui les frappe d'apprendre qu'on enseigne la parole de Dieu à différents niveaux dans l'Assemblée. Et c'est ce que la parole de Dieu nous invite, nous demande à faire. Alors, c'est quoi le message ici, psaume 78? Eh bien, le message est justement un appel à avoir une influence sur la génération future. Le message est bien simple, c'est transmettons aux générations futures les louanges de Dieu. Transmettons à la génération future les louanges de Dieu. Regardez bien le verset 3, ce que ça dit. Ça dit, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, alors ce qu'on a appris, nous ici, c'est ce qu'on apprend à l'Église, dans le fond. Mais pour Israël, parce que Asaph parle de l'histoire d'Israël dans le passé, il va s'arrêter surtout à un moment de l'histoire d'Israël, principalement avec la délivrance des Juifs de l'esclavage de l'Égypte, et on connaît bien l'histoire, on a pas mal tous vu les films comme les 10 commandements, et il va s'arrêter à cet épisode de l'histoire d'Israël, et il va s'arrêter là, parler du peuple d'Israël, et il va aussi parcourir un peu dans le désert, tout ce voyage qui a été fait pendant une quarantaine d'années avec les Juifs, et comment Dieu a pris soin d'Israël à travers le désert. Alors verset 3 dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à nos enfants. » Verset 4. Il ne faut pas cacher ça à nos enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. On raconte à nos enfants et à la prochaine génération. Et pourquoi? Bien, la raison se trouve au verset 7. Ça dit « Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, afin qu'ils croient, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils obéissent à ses commandements. » Il est donc capital de rappeler les œuvres de Dieu dans l'histoire, afin de ne pas oublier. Il ne faut pas oublier. Ce souvenir, le souvenir de ce que Dieu a fait à travers l'histoire, nous incite à marcher avec Dieu. C'est ça que l'auteur est en train de nous dire. Et puis, il est inspiré du Saint-Esprit. Là. Il est en train de nous dire, ce souvenir nous incite à marcher avec Dieu. Alors, en d'autres mots, nous conduit à la fidélité. Alors qu'oublier nous incite à nous éloigner de Dieu. Voici ce que Golden Gay, dans son commentaire, dit. Il l'explique comme ceci. Il dit, pour le peuple de Dieu, décider de se rappeler est la clé de la fidélité. Et décider d'oublier est la clé de l'échec. Et c'est ce que nous apprend l'histoire. Et il va le démontrer, il va le prouver en choisissant quelques épisodes dans l'histoire d'Israël, à travers notamment cette expérience de délivrance de l'Égypte et aussi le voyage à travers le désert. Il va nous démontrer, regardez ce qui se passe. On peut apprendre de l'histoire. Et il y a une anecdote, hein, il y a un dicton qui dit « Celui qui n'apprend pas l'histoire le répète ». Mais ici, les enjeux sont beaucoup plus sérieux. Il en va de ta relation avec Dieu. Alors, c'est ce que nous enseigne l'histoire d'Israël. Et c'est ça qu'il va dire à Asaph. D'où l'importance de transmettre aux générations futures les louanges, les puissances, les miracles que Dieu accomplit à travers l'histoire. Asaph exhorte le peuple de Dieu à transmettre aux enfants et à la génération future la connaissance de Dieu. Alors, la façon qu'il le fait, c'est en carrément en rappelant l'histoire d'Israël. Il dit au verset 2, « J'ouvre la bouche pour parler en parabole, mais le mot hébreu ici est simplement dire « j'ouvre mon cœur, je vous exprime ce que j'ai à cœur de vous annoncer, tout ça, c'est pas mystique comme tel. » Il dit « j'ouvre la bouche, je veux vous parler de quelque chose de très sérieux. » Il dit « j'annonce la sagesse du passé. » Et verset 3, il dit « ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. » Asaph rappelle l'histoire d'Israël. Il dit, moi j'annonce la sagesse du passé, ce qu'on a entendu de nos pères, ce qu'ils nous ont raconté, ce qu'on sait. Alors, c'est ce qu'on appelle un psaume historique. Il passe en revue certaines expériences du peuple de Dieu au cours de l'histoire. Il retourne dans le passé des Juifs, alors surtout dans cette période de l'Exode, dans le fond. Alors, Asaph va dérouler l'histoire et il va aller jusqu'au règne de David. Mais Asaph n'est pas un journaliste. Il ne fait pas juste raconter des faits, voici ce qui s'est passé. Non, au contraire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, regardez ce qui s'est passé, et à travers ça, il va faire ressortir des leçons importantes pour nous. En d'autres mots, il tire des leçons de l'histoire. Il regarde les événements passés, il nous dit, voyez-vous comment les Juifs ont agi? Comment Dieu leur a fait tellement de bien, comment il a pris soin d'eux, il était comme un bon berger à prendre soin, à les nourrir et tout ça. Et regardez comment les Juifs ont répondu. Ils se sont rebellés, ils ont contesté Dieu, ils l'ont mis à l'épreuve, ils n'ont pas cessé de le maltraiter. Et Et Dieu a été patient, a été miséricordieux, a été plein de compassion. Et il a même retenu sa colère très souvent. Mais nos pères, c'est-à-dire les Juifs, dans le cas d'Asaph, se sont rebellés contre Dieu. Ils ont continué à se rebeller contre Dieu. Regardez ce que dit le verset 38, il dit, « Pourtant, lui, dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne s'abandonne pas à toute sa fureur. » Heureusement que Dieu retient sa colère. Heureusement. « Il s'est souvenu qu'il n'était que des créatures, un souffle qui s'en va et ne revient pas. » Que de fois, verset 40, que de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert. Que de fois ils l'ont irrité dans les lieux arides. Ainsi, ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance du jour où il les avait délivrés de leurs ennemis. Le mot est très juste ici. Ils ont attristé le Saint d'Israël. Et c'est exactement ce que le sens du mot hébreu dans l'original. Ils ont fait mal à Dieu. Ils ont fait souffrir Dieu. Ils ont attristé Dieu. Alors, le psaume est donc un rappel, une exhortation à se rappeler des leçons qu'on doit tirer du passé. Et ce rappel a pour objet, c'est pas juste le rappeler, là. C'est pas juste rappeler l'histoire. Ce rappel a un but, pas juste de garder un record, mais de nous enseigner, d'influencer notre présent et notre avenir, afin qu'on puisse se coller au Seigneur et marcher avec le Seigneur. Alors, Asaph tire des leçons de l'histoire d'Israël, des leçons qui risqueraient de passer inaperçues si on ne s'arrête pas pour analyser. Mais Asaph s'arrête, guidé par le Saint-Esprit, et analyse l'histoire d'Israël et fait ressortir des histoires. Il va faire ressortir trois histoires, trois leçons du passé. Premièrement, la triste répétition des rébellions. Deuxièmement, la patience de Dieu qui retient sa colère, verset 38 et 39, là, et la miséricorde de Dieu qui sauve constamment le peuple. On peut tirer une conclusion finalement que l'homme, laissé à lui-même, réussit pas du tout à marcher avec Dieu et à plaire à Dieu. Il a besoin de l'intervention de Dieu pour ça. Et c'est ce qui va arriver. Asaph est bien conscient qu'à tout moment, le peuple peut oublier et s'éloigner de Dieu. Il risque l'extinction, et d'ailleurs c'est ce qui va arriver avec le royaume du Nord éventuellement, ils vont s'éteindre, si on ne transmet pas la connaissance de Dieu à la génération future. Asaph rappelle la désobéissance du peuple de Dieu, et cette désobéissance va aller très loin. C'est l'idolâtrie, tout ça, on va abandonner Dieu. On pense aux nombreuses fois que le peuple de Dieu a murmuré contre Dieu dans le désert, on se rappelle ces histoires. Mais Dieu a constamment été fidèle, été patient, été compatissant. Alors, on a besoin de rappeler aux générations futures qu'on a besoin vraiment de se coller au Seigneur. On a besoin de lui. Sans lui, on n'est pas capable d'avancer. On fait un tas de choses, mais ça ne comptera pas du tout dans l'éternité. On a vraiment besoin de son aide. Alors, Asaph nous donne ce message. Et on sent l'importance, on sent son urgence. On sent l'importance de nous transmettre ça. Le passage, le livre, écoutez, 72 versets, là. Je vous dis que son cœur est plein, puis il veut nous avertir. Et c'est un avertissement solennel. Alors, en gros, là, si on fait une structure, un plan un peu de son passage, je vais vous faire un plan, après ça, je vais vous montrer le plan, un peu le mouvement du passage, après ça, je vais vous montrer un peu ce que ça veut dire pour nous autres. Alors, ça, c'est un peu le plan, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur, là, on ne vous le demandera pas. Là, c'est juste pour ceux qui s'intéressent, qui aimeraient relire le passage et qui aimeraient peut-être revoir ce passage-là. Alors ça, c'est essentiellement les 8 premiers versets, c'est un peu comme une sorte d'introduction, mais dans lequel Asaph va donner son message. Il dit, il faut transmettre la connaissance de Dieu aux prochaines générations, afin qu'ils mettent leur confiance en lui. Dans le fond, c'est essentiellement ça. Et là, ce qu'il va faire, il va tourner dans le passé, il va parler de l'échec d'Éphraïm, ça c'est les Juifs du Nord, c'est une tribu, mais c'est devenu un synonyme du Nord, éventuellement, le mot Éphraïm. Ça, c'est l'échec du peuple de Dieu, on pourrait dire ça comme ça. Et vous allez voir, c'est la même chose. Les deux, dans le fond, les deux mouvements, là, c'est pas mal la même chose, ça se répète. Il dit Dieu Israël dans le désert, alors, verset 12 à 31, mais dans le fond, on pourrait dire jusqu'à 43. D'abord, il parle des merveilles de Dieu, ensuite la rébellion d'Israël, puis en plus, après ça, la colère de Dieu puis sa compassion. Il va faire la même chose maintenant, il rentre dans le désert, et il voit le désert, tout ce qui s'est passé dans le désert, puis il dit encore la même affaire. Il dit les merveilles de Dieu, la rébellion d'Israël, et la colère de Dieu puis sa compassion. Il dit la même chose deux fois, dans le fond. Alors, en d'autres mots, dans la délivrance, Dieu était bon, il a fait des merveilles, des miracles et tout ça, les gens sont rebellés, puis Dieu est obligé de juger certaines personnes, mais il a démontré, mon ami, tellement de compassion. C'est la même chose dans le désert. Donc, ça s'est répété deux fois. Et à la fin, la conclusion, le psaume finit de façon, c'est un chef-d'œuvre, comment c'est fait. Et tranquillement, ça finit en disant, Dieu est en train de dire, j'ai choisi David. En d'autres mots, la solution ultime, la seule solution va passer par la lignée de David. Et nous qui vivons de ce côté-ci, de la croix et de la résurrection, ça nous fait penser à l'Évangile éventuellement. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on peut appliquer, si on transpose tout ça à nous qui vivons de ce côté-ci de la croix, ça va changer. Ça va changer parce que la solution passe par la lignée de David et justement va aboutir à Jésus-Christ. La solution du cœur humain, de la faiblesse de l'homme, la solution va passer par la lignée de David, puis finalement la solution, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça, c'est là que ça en va, c'est ça le message. Alors le psaume conclut en disant que notre cœur est faible. On peut pas changer par nous-mêmes notre cœur. D'ailleurs, regardez bien le verset 8, ce que ça dit. Il dit « une génération dont le cœur était inconstant ». L'idée dans l'original, c'est « koun », qui veut dire « instable », n'était pas ferme, n'était pas résolu, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Le même mot va revenir au verset 37, le même mot en hébreu. Le cœur ne lui était pas fermement attaché. Alors, fermement attaché à Dieu, ça fonctionne pas. Alors, la délivrance ultime du cœur fragile de l'homme va passer par la lignée de David et qui finalement aboutira à Jésus-Christ. Alors, c'est l'Évangile. Nous, on connaît la suite de l'histoire du psaume 78. Dans le psaume 78, ce que ça nous dit, c'est que l'homme a vraiment besoin d'une intervention miraculeuse pour qu'avoir un cœur changé. À la fin, l'indice qu'il nous donne, ça va passer par David. Mais nous qui vivons ici, qui avons l'Évangile, le nouveau David, finalement, c'est Jésus-Christ, c'est lui. Parce que même la dynastie de David, même quand David est arrivé, la dynastie aussi s'est corrompue et le jugement est arrivé. Ils ont même été, les Juifs ont été envoyés en exil pendant 70 ans. Mais Dieu était gracieux. Il va ramener son peuple après ça en Israël. Puis à travers l'histoire, Dieu va régler une fois pour toutes la faiblesse de notre cœur parce que nous, on est incapables d'obéir à Dieu par nos propres forces. On mérite juste le jugement. Ça fonctionne pas. On le voit par l'histoire. L'histoire nous apprend que le cœur de l'homme n'est pas capable de changer sans l'intervention de Dieu. Mais Dieu, qui nous aime, va ultimement déverser et relâcher toute sa colère sur son propre Fils, Jésus-Christ. Et c'est là que Dieu est satisfait et que le cœur peut changer. Alors, c'est sur la croix que la colère la plus ardente et l'amour le plus glorieux de Dieu allaient se manifester. C'est ce que le psaume 78 est en train, de façon embryonnaire, tout petit peu, là, un soupçon, est en train de nous conduire, est en train de nous emmener tranquillement là. Alors, le plan est le suivant. Pour nous qui vivons ce côté-ci, qui avons la suite de l'histoire du psaume 78, on peut revoir le passage, essentiellement assez simple. À la lumière de l'histoire et ce qui s'est poursuivi dans le Nouveau Testament, voici le message. Transmettons l'Évangile aux prochaines générations afin qu'ils mettent leur confiance en Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est ça le message d'Asaph, essentiellement. Et deux raisons, à cause de l'échec de l'être humain. Le cœur est faible, est inconstant. La solution est le sauveur, c'est Jésus-Christ. Alors, comment on peut faire ça? Bien, quelques conseils de Randy Alcorn. Voici ce qu'il dit. À propos des papas. On va se concentrer sur les papas, mais c'est vrai pour tout le monde. Maintenant, c'est peut-être des choses que vous faites déjà. Alors, gloire à Dieu si vous faites déjà. Moi, c'est juste un encouragement. Continuez. Et si vous n'avez pas encore commencé, c'est nouveau pour vous, alors c'est le temps de le faire. Premièrement, lire la parole de Dieu avec ses enfants. Vraiment s'asseoir là avec les enfants, puis lire la parole de Dieu. Et je sais qu'il y a certains papas, pas tous les papas, ce serait gratuit de vous lancer ça, là, mais je sais que certains papas n'aiment pas lire. C'est un effort de lire. Mais ça, c'est une discipline que tu ne veux pas négliger. Il y a des choses que tu peux laisser de côté, mais ça, c'est une des choses que tu ne veux pas laisser de côté. Tu veux vraiment prendre le temps de lire la parole de Dieu à tes enfants. Je sais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde tellement visuel avec les vidéos et tout ça, mais c'est quand ils sont jeunes qu'il faut donner le goût aux enfants de lire la parole de Dieu. Ça commence quand ils sont jeunes. Si on veut que les enfants aiment la Bible, la parole de Dieu plus tard, ça commence à la maison, quand ils sont jeunes. Deuxièmement, une bonne gestion du temps de la télévision. La télévision peut prendre beaucoup de place à la maison, puis je ne dis pas d'enlever la télé, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire une bonne gestion de temps. Tu sais que tu choisis tes émissions et tout ça, mais tu sais, tu veux donner des priorités sur autre chose aussi. Troisièmement, enseigner à vos enfants à être reconnaissants. Ça commence à être quand ils sont jeunes. On ne veut pas produire une génération qui prend pour acquis que tout leur est dû. Tu ne veux pas faire ça. D'enseigner aux enfants de remercier Dieu, d'être reconnaissant à Dieu, de développer cette habitude d'action de grâce, constamment être reconnaissant. Et ça, c'est très biblique. Hein? C'est biblique pour nous autres. Constamment, ça le dit dans le Nouveau Testament, de rendre gloire à Dieu constamment et tout ça. On veut leur enseigner d'être reconnaissant au Seigneur. Quatrièmement, enseignez à vos enfants à confesser leurs fautes, leurs péchés, et à se repentir en le faisant vous-même devant eux. Hey, ça, c'est tough pour les pères. Ça demande d'humilité. Là. Ça demande une méchante dose d'humilité. Écoute, aucun papa est parfait. Là. Moi, je ne suis pas ici de vous décourager tout ça. C'est pas mon but. On n'est pas parfait. On va faire des erreurs. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû demander pardon à mes enfants. Papa n'a pas toujours raison. C'est pas vrai. Papa n'a pas toujours raison. Il va faire des erreurs. Et puis, c'est une belle façon de montrer l'odeur, la belle odeur de l'Évangile. Parce que tu arrives avec cet esprit, un esprit humble et un serviteur. Puis tu demandes pardon à tes enfants pour l'erreur que tu as faite. Il n'y a rien de plus beau pour un enfant de voir un père qui est humble et qui est prêt à reconnaître ses erreurs. Martin Lloyd Jones a dit ceci, il dit, on devrait laisser à nos enfants la bonne impression qu'il n'existe rien de plus beau sur cette terre que le christianisme. Et rien ne se compare à être un chrétien. C'est ça qu'on veut donner comme impression, qu'on veut laisser comme impression au sein de notre foyer. Cinquièmement, donner généreusement à l'œuvre du Seigneur. Alors, soutenez-le financièrement et aidez vos enfants à prendre l'habitude de donner. Peut-être même ça va demander que vous puissiez donner une petite portion, une petite allocation, peut-être, je ne sais pas moi, un exemple. Si c'est $1, bien, tu te dis, bon, mais regarde, peut-être on pourrait donner un 10 sous tous les semaines. Tu les habitues là-dedans. Et ça, c'est une belle habitude à prendre, ça. Alors, donnez généreusement vous-même à l'œuvre du Seigneur et on incite nos enfants à faire la même chose. Hein, Jésus l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sixièmement, rappelez-vous que vous existez. Alors, ça, c'est la vision du monde. Rappelez-vous que vous existez pour la gloire de Dieu et pour transmettre l'héritage de la foi à vos enfants. C'est juste de se rappeler là, pourquoi on existe, là, pourquoi on est ici. Et le psaume 78 nous le rappelle. Et le psaume 111, 18 dit ceci. Ça dit, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Alors, septièmement, retenons les bonnes priorités. Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire aujourd'hui, là. Il faut choisir. Il faut savoir la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. D'ailleurs, il y a quelques années, Charles Hummel a écrit un livre intitulé « La tyrannie de l'urgent ». Parfois, on fait un tas de choses, mais on néglige les choses les plus importantes. Et là, on vieillit, des années passent, puis là, on s'aperçoit que les enfants sont adultes, puis ça, sont partis, puis « Ah, j'aurais donc dû, puis j'aurais donc aimé, ou j'aurais... » Il faut faire des choix, c'est des choix. On peut remplir notre horaire avec un paquet d'affaires, il y a tellement de choses aujourd'hui. Voici une citation de Charles Hummel. Il dit ceci, il dit, quand nous prenons le temps de réfléchir, nous constatons que le problème est plus profond qu'un simple manque de temps. C'est un problème de priorité. Le plus grand danger est de laisser les choses urgentes envahir l'important. Nous vivons en tension constante entre l'urgent et l'important. Faire des choix. Huitièmement, craignez Dieu et aimez-le afin que vos enfants soient bénis. Le psaume 112 le dit bien, hein? Il dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » Neuvièmement, pour ceux qui souffrent de la rébellion de leurs enfants. Et ça, c'est tellement déchirant de voir ces enfants qui s'éloignent du Seigneur. Alors, si vous vivez ça en ce moment, vous êtes dans cette saison de votre vie où les enfants, vous les avez éduqués dans la parole de Dieu et tout ça, pour X raisons, ils se tournent le dos à l'Évangile, soyez patients. Gardez courage. Dieu n'a pas fini avec eux. Et dixièmement, priez pour vos enfants. Parfois, c'est la seule chose à faire, mais c'est la chose la meilleure chose à faire. Ce qu'on peut faire, c'est très limité, mais avec Dieu, hein, il y a toujours une solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Alors, onzièmement, cultivez un bon mariage et protégez votre mariage. Les enfants ont besoin de voir ça, de voir un couple qui s'aime à la maison. Les enfants ressentent vraiment ce qui se passe dans notre vie de couple. Et la meilleure chose que l'on puisse faire pour nos enfants, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, puis d'aimer aussi son conjoint de tout notre cœur. Ça, les enfants ont besoin de voir ça. Douzièmement, accepte que sans le Seigneur, tu peux rien faire. Tu vas dire, ben oui, mais je peux faire un paquet d'affaires, j'ai fait un paquet de choses. Mais des choses qui vont avoir une portée éternelle, tu peux absolument rien faire. Ça va être passager, ça va passer. Mais si tu veux faire quelque chose, une vie qui compte, qui va avoir une portée éternelle, c'est vraiment avec le Seigneur. Faut que tu acceptes ça, que sans le Seigneur, ça ne fonctionnera pas. Quoi de plus beau que de penser qu'on pourra un jour s'asseoir ensemble et possiblement, et c'est notre prière, avec nos enfants et leurs enfants et leurs enfants. Et imaginez qu'un jour, être assis à la table du roi, tout ensemble, puis vos enfants vous disent, « Hey, merci. Merci de me représenter Jésus. » Hein? Ah, mon doux. On a un Dieu gracieux. Puis on va faire des erreurs. Puis, je veux pas que vous partiez d'ici tout à l'envers parce que ça n'a peut-être pas fonctionné très bien chez vous. Dieu est gracieux. On a un Dieu plein de bonté et de miséricorde. Donc, soyons encouragés. Corrigeons le tir si on a besoin de le faire. Encourageons les autres. Et parce que ça vaut vraiment. Il n'y a rien de plus bénissant, de plus glorieux que ça. Et j'ai pensé demander à un frère, à Gaétan, de venir ce matin, nous raconter un peu justement l'héritage que lui a reçu de sa famille. Et viens-t'en maintenant, Gaétan. Ah, tu as besoin d'un micro, toi, là. C'est correct, les gars, en arrière? Tu là? Ça devrait être correct. Oui, c'est beau. Merci, Gaétan.
Alors, bonjour. En temps normal, du fait que c'est la fête des pères, je me serais rendu à Val-d'Or voir mon père. Mais Dieu a cru bon que pour cette fête des pères, qu'il l'appellerait auprès de lui-même. Et ce que je compte partager avec vous ce matin, ce n'est pas pour attirer l'attention sur moi-même, même sur mon père, mes parents, mais sur mon Père Céleste, notre Père Céleste qui dans sa grâce, justement, comme a été démontré par notre remise du passage que nous avons considéré ce matin, combien Dieu est bon, combien est-ce qu'il est grand, combien est-ce qu'il est gracieux, et comme il désire nous faire du bien, malgré trop souvent nos lacunes, nos manquements, nos folies, nos rébellions. Le titre du message, c'est « Je me souviens ». Et ce que je vais vous partager, il y a des choses que je ne me souviens pas, excepté que c'est ce que mon père me dit que je me souviens. Okay? Il y a certaines choses que j'ai vécues, mais il y en a d'autres que à l'âge que j'avais, même maintenant, il y a des bouts que j'en perds. Mais en 1948, Monsieur Lorne Héron est allé à Val-d'Or être pasteur de l'Église anglophone. Et il a commencé à œuvrer comme pasteur auprès des anglophones, mais du fait que la population à Val-d'Or et les environs, c'était des Canadiens français, il avait à cœur d'atteindre ces gens. Et venant de l'Ontario, bien il a appris son français sur le tas, comme on pourrait dire. Mais il y avait ce désir de partager l'Évangile avec les Canadiens français. Et je sais qu'il a visité la ville de fond en comble plus d'une fois lors des 31 ans de ministère qu'il a eu à Val-d'Or. À l'automne 1952, en faisant du porte-à-porte, et il cognait aux portes et il offrait un Nouveau Testament. Lorsqu'il a frappé à la porte de la demeure de mes parents, mon père n'y était pas, il était au travail, mais ma mère était là avec sa sœur, sa grande sœur, qui l'avait plus ou moins élevée. Et autant que je sache, ma tante n'avait pas placé sa foi en Christ, mais elle a dit, lorsque l'offre d'avoir un Nouveau Testament gratuit, elle a dit, bien, elle a comme encouragé ma mère, elle a dit, ben, accepte-le, il n'y a rien à perdre, là, ou en tout cas. Fait que ma mère a accepté de recevoir un Nouveau Testament. Et mon père, pendant ce temps-là, ça faisait longtemps qu'il avait vu sa grand-mère lire. Il me dit qu'il n'était pas certain si elle lisait le Nouveau Testament, mais il voyait à l'occasion sa grand-mère lire dans un livre, un petit livre noir. Alors, elle ne sait pas si c'était un Nouveau Testament, mais ça avait comme piqué sa curiosité. Puis tout au long de son enfance, de son adolescence, jusqu'au qu'il devienne adulte, il avait un désir de lire le Nouveau Testament. Et il avait même eu un Nouveau Testament dans un camp de bûcherons dans l'Ordre de l'Ontario par les Shantymen. Mais il l'avait perdu pour une raison quelconque et il n'avait pas pu finir de le lire. Mais en tout cas, ils reçoivent le Nouveau Testament à la maison à Val-d'Or et pendant l'automne et l'hiver, mon père lit le Nouveau Testament d'un couvert à l'autre. On arrive à 1953, c'est la semaine avant Pâques. Alors, il m'a raconté que, en 1953, la semaine avant Pâques, il s'en allait à l'église catholique, pour faire ce qu'il avait la coutume de faire, parce qu'il était pratiquant. Il avait un désir, de plaire à Dieu, d'être en règle avec Dieu. Alors, en s'en allant à l'église, pour faire ce qu'il avait la coutume de faire, c'est comme si l'Esprit de Dieu lui avait dit, mais qu'est-ce que tu as lu dans ma parole, dans le Nouveau Testament? Et c'est comme si il y a eu un déclic qui s'est fait dans son esprit par l'entremise de Dieu. Il a dit, pourquoi est-ce que tu t'en vas faire ce que tu vas faire, l'Église? Parce que tu as lu dans ma parole que Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, a tout accompli. Il n'y a rien à y rajouter. Alors, au lieu de se rendre à l'église pour faire ce qu'il avait la coutume de faire, il s'est rendu à un autre bâtiment. Monsieur Héron avait, cette journée-là, c'était un dimanche, ça, j'ai vérifié, mais il avait commencé, ou en tout cas, il avait envoyé des invitations pour inviter des francophones à venir à une réunion le dimanche après-midi à 2 heures. Et M. Héron, comme je l'ai dit, avait fait le tour de la ville, invité les gens, donné des invitations. Et parmi ceux-là étaient mes parents. Alors, mon père décide, au lieu d'aller à l'église où il allait habituellement, s'est rendu au bâtiment de l'église baptiste à Val-d'Or. Il est arrivé là, puis je ne suis pas certain, je pense qu'il n'y avait personne quand il est arrivé. Monsieur Héron était allé avec son auto faire le tour pour contacter les personnes qu'il avait invitées en leur offrant du transport. Mais Monsieur Héron est revenu pour le début de la réunion, bredouille, il n'y avait personne qui avait accepté l'invitation. Mais quand il est arrivé, il y avait mon père d'assis. Et il attendait. Et là, naturellement, M. Héron a pris le temps de discuter avec lui. Et en jasant avec, M. Héron s'est rendu compte que mon père, par la simple lecture du Nouveau Testament, et par l'œuvre de l'Esprit, était venu à comprendre son état de pécheur devant Dieu et qu'il ne pouvait pas de lui-même faire quoi que ce soit pour se mériter la faveur de Dieu, pour obtenir le salut d'être réconcilié avec Dieu. Mais qu'il suffisait de placer sa foi en Jésus-Christ, parce que c'est lui, Jésus-Christ, qui a subi le jugement pour ses péchés à sa place. Alors, de partir de ce moment-là, bien, mon père et ma mère ont commencé à fréquenter l'église évangélique et ils ont commencé à apprendre les leçons, les principes de la parole de Dieu. Et à l'automne 1953, c'est ma mère qui a placé sa confiance en Jésus-Christ. Et dans ce mois-là, au mois d'octobre, ils se sont fait baptiser. Alors, mes parents ne l'ont pas eu facile. Dans 1950, au Québec, un Canadien français, eh bien, c'est un catholique romain, puis c'est un francophone, il parlait français, puis il faisait partie de cette communauté-là, puis de déroger de cela, c'était comme, bien, c'était un faux pas. Et ils ont sans doute eu de maintes et maintes recommandations de mettre de côté, justement, ces croyances-là, puis de revenir à leurs racines. Mais Dieu, dans sa grâce, leur avait montré dans sa parole ce qu'était la vérité. Et il valait mieux compter sur la vérité que Dieu avait révélée dans sa parole que les conseils de tous et chacun. Et ce que j'ai vu chez mes parents, moi j'avais, quand mon père acceptait le Seigneur, j'avais 2 ans et demi. Fait que je n'en étais pas conscient, mais en principe, à partir de cet âge-là, mais j'ai grandi dans un environnement, un foyer chrétien évangélique, où ce que la parole de Dieu avait une importance, une très grande importance. Mes parents cherchaient à mettre en pratique ce qu'ils apprenaient des Saintes Écritures. Ils ne pratiquaient pas une religion, mais ils cherchaient à entretenir une relation personnelle avec leur Dieu. Et parce qu'ils avaient compris que juste être religieux, ça suffisait pas. Du point de vue humain, mes parents n'ont pas fait grands exploits extraordinaires. Mais de mon point de vue à moi, par la grâce de Dieu, oui. Parce que dans leur quotidien, ils ont démontré le désir d'être fidèles au Seigneur et à sa parole et cherchaient à mettre en pratique dans les moindres détails, les petites choses, comme dans les grandes. Et cela ne veut pas dire que mes parents étaient parfaits. Loin de là, ils seraient les premiers à le reconnaître et à l'admettre. Mais la manière que Dieu accomplissait son travail dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs agissements, dans leur comportement, de la manière qu'ils ont cherché à nous élever, à nous montrer l'exemple. Mais cela n'a pas pu faire autrement que d'avoir un impact sur la vie de leurs enfants. Et je vais parler de la mienne. Alors moi, ayant grandi dans cet environnement-là, où ce que la parole de Dieu, le message de l'Évangile était annoncé, que j'étais pécheur, que j'étais perdu, que je pouvais pas me sauver par mes propres moyens, mais que Jésus-Christ avait subi sur la croix la punition que je méritais et que si je plaçais ma confiance dans cette provision-là que Dieu avait fait, que je passerais de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, que je deviendrais un enfant de Dieu. Et c'est à l'âge de 10 ans que j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel. Et à travers l'œuvre de Dieu dans ma propre vie, mais cela m'a amené à désirer le suivre et le servir. Et au début des années 70, je suis allé à l'Institut biblique Bethel pour suivre le programme de 3 ans pour mieux apprendre à étudier la parole et chercher la direction de Dieu pour ma vie. Et c'est là que Dieu a permis qu'Avi et moi on se rencontre, qu'on fasse connaissance, et que à la fin de l'année des 3 ans, eh bien, on s'est mariés au mois de mai 74. On vient juste de célébrer 40 ans de vie commune par la grâce de Dieu. Et Dieu nous a bénis avec 4 enfants qu'il nous a confiés. Et nous remercions Dieu pour chacun d'eux, leurs conjoints et leurs enfants. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que chacun cherche à suivre et servir le Seigneur selon la direction de Dieu, sa volonté, et selon leur habilité et leur talent. Notre aînée Chantal, avec Alessandro et Samuel, ils servent le Seigneur avec New Tribes Mission auprès du peuple Konyagi au Sénégal et en Guinée, désirant leur permettre à ce peuple d'entendre le message de la bonne nouvelle dans leur propre langue. Nathalie, notre deuxième, avec Yannick, son époux, Karianne, Nicolas et Caleb, qui fréquentent l'église ici et qui sont impliqués à servir le Seigneur au sein de l'Église ici. Ensuite, il y a Eric, Rachel, Carly, Kiana, et ils servent le Seigneur dans leur église locale à Orléans. Eric, est, même s'il n'est pas vieux, il est un ancien là-bas. Et Marc et Marie-Hélène, Odélie, Enzo, et qui n'est pas sur la photo, Marc-Henri, qui fait partie maintenant de la famille et qui sont en processus d'adoption, qui servent le Seigneur comme implanteurs d'église à Sherbrooke, Acts 21. Et on remercie Dieu de la manière qu'il a dirigé nos enfants. Notre prière, on a prié pour nos enfants depuis le moment de leur naissance jusqu'à aujourd'hui, puis on continue à prier pour eux. On savait pas ce que Dieu avait en tête pour eux, mais ce que nous voulions, c'est que Dieu fasse son travail dans leur cœur et que nos enfants puissent répondre, premièrement, à mettre leur confiance en Jésus-Christ pour le salut de leur âme, d'être réconciliés avec leur Créateur, et qu'ils se rendraient disponibles à le servir d'une manière ou d'une autre. Et comme vous pouvez voir, bien, Dieu a dirigé de diverses manières, et cela réjouit nos cœurs. Mais ce n'est pas parce qu'on est, nous, en tant que parents, on est plus fin, plus smart que d'autres. On sait qu'il y en a des parents qui ont sans doute fait plus que nous autres. Puis que pour une raison quelconque, les enfants se sont éloignés. Et ça nous fait de la peine pour vous. Mais comme il a été partagé, bien, avec Dieu, il ne faut jamais perdre d'espoir, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Dieu peut accomplir de grandes choses, même dans des circonstances que nous, on se sent démunis, dépassés. Mais une chose que Marc partage en tant qu'implanteur d'église, il dit, son but, c'est que le Québec soit la province la plus évangélisée au Canada au lieu d'être la moindre des évangélisées. Et il a ce désir-là, et c'est aussi le désir de notre cœur, que Dieu puisse continuer à se faire connaître aux Québécois et jusqu'aux extrémités de la terre. L'impact d'une vie ne se fait pas du jour au lendemain. Ce que je viens de vous raconter dans quelques minutes, mais c'est l'histoire de 60 ans. Ça fait partie de mon histoire, l'histoire de mes parents, l'histoire des Hérons, mais aussi l'histoire de Dieu. Ce que Dieu a accompli à travers les années. Et ça, ce n'est juste un exemple. Il y en a des milliers d'autres exemples. Vous êtes aussi un exemple de cela. Dieu a une histoire. Il fait partie de votre histoire. Alors, l'impact d'une vie ne se fait pas du jour au lendemain et n'est pas nécessairement au moyen d'exploit, mais en étant fidèle de jour en jour dans les petits détails de la vie, démontrant que nous prenons au sérieux Dieu et sa parole et compter sur sa grâce, sa force et sa sagesse pour le suivre et le servir d'une manière qui l'honore et qui le glorifie. Cela ne veut pas dire que nous réussirons à tout coup. Si nous trébuchons et tombons, eh bien, Dieu nous invite à confesser notre péché et à compter sur lui de nous relever et continuer en faisant un autre pas dans la bonne direction pour que la génération qui suit puisse aussi être marquée et désirée marcher dans les pas de ceux qui les ont précédés. Amen.
Amen. Merci, Agathan. Un bel héritage. J'inviterais, peut-être, on pourrait juste avoir un temps de prière. Peut-être les papas pourraient se lever. Tous les papas ici, là, on peut se lever, puis ensemble, on pourrait prier. Prier pour Gaétan aussi, qui, j'ai compris que tu avais perdu ton papa. Et bien, Seigneur notre Dieu, quel héritage, un bel héritage que tu as placé ici dans la famille des Pilons. Juste avec une Bible qui a été transmise dans un foyer. Et qu'aujourd'hui, peut-être des milliers d'églises seront implantées à travers la province. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons nous rappeler que nous sommes ici pour transmettre l'Évangile. Et ça commence avec nos enfants. On te prie pour notre frère Gaétan et toute la famille en ce moment, qui passe ce moment difficile avec papa, qui vient de partir. Et merci de son salut, de cette assurance que nous avons, qu'il est auprès de toi. On te prie que tu puisses fortifier, consoler la famille. Et aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, à être des papas qui vont transmettre cet évangile, ce beau message d'évangile à nos enfants, pour qu'à leur tour, ils puissent le transmettre à la prochaine génération. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.